Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Chronique d'un chaos annoncé suite, alors que les débats au Parlement britannique reprennent avant le vote crucial de mardi prochain sur l'accord du Brexit, les députés ont voulu marquer le terrain et imposer un nouveau camouflet à la Première ministre Theresa May, alors que la chef de l'exécutif annonce la fin du monde en cas de non-accord. Les députés lui imposent un contrôle pour toute décision fiscale dans la perspective d'un no deal. Dans ce climat d'incertitude chronique, les milieux économiques ont des sueurs froides. C'est le cas des installations portuaires, élément clé des échanges commerciaux. En 2017, 54 millions de tonnes de marchandises, 1,7 million de semi-remorques ont transité entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Reportage au terminal de Hoek van Holland, près de Rotterdam, signé Antoine Moutot.
Il reste peu de temps avant la fermeture des guichets d'embarquement. Le dernier ferry de la journée pour Harwich en Angleterre doit partir d'ici moins d'une heure. Plaque d'immatriculation britannique, volant à droite, Wilhelmina a beau être néerlandaise, après avoir vécu près de 40 ans dans la région de Norwich, c'est à s'y méprendre. D'ailleurs, c'est spontanément en anglais qu'elle répond aux questions.
S'ils doivent nous contrôler davantage après le Brexit, j'espère qu'ils auront plus d'infrastructures et d'équipements pour le faire.
Des files d'attente plus longues en raison de contrôles accrus, les passagers de ce terminal de ferry ne sont pas les seuls à le craindre. La commission territoriale de Hoek van Holland le pense aussi, au même titre que les autorités du port proche de Rotterdam et de nombreuses entreprises de la région, notamment agricoles. Dans cette région du Westland, l'une des reines de l'agriculture intensive, s'étendent à perte de vue d'immenses exploitations sous serre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la compagnie d'export de fruits et légumes Daily Fresh y a son principal entrepôt. Ici, tous les camions transitent par le ferry de Hoek van Holland. Le Brexit occupe donc désormais tous les esprits de cette entreprise. Pim Leiner est responsable des ventes chez Daily Fresh.
Tout va dépendre de notre préparation. Nous faisons de notre mieux pour être prêts au maximum le jour où débutera par exemple un Brexit dur. Et ça dans l'espoir d'enregistrer le moins de dégâts possible. Mais bon, quoi qu'il en soit, il devrait y avoir des retards, des problèmes de documents et sûrement des contrôles supplémentaires. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Et du temps, dans notre secteur, nous en avons peu. En tout cas, on n'échappera pas aux effets.
Ce qui inquiète le plus Pim Leiner, ce sont les problèmes de circulation à Hoek van Holland, les bouchons.
Avec des contrôles supplémentaires de documents, peut-être aussi de nos produits, dans des ports aux capacités assez restreintes, on devrait avoir pendant les heures de pointe de gros bouchons, qui pourraient bien s'étendre jusque sur l'autoroute, c'est sûr.
D'autant plus que, selon lui, le Hoeksebaan, une artère importante de Hoek van Holland, est déjà régulièrement bouchée peu avant les départs des ferries vers l'Angleterre. Pour le moment, ce qui agace le plus Pim Leiner, c'est le flou auquel est confrontée son entreprise, comme tant d'autres ici aux Pays-Bas.
J'ai l'impression que les entrepreneurs sont abandonnés à leur sort. Nous espérons obtenir le plus rapidement possible des informations et qu'ils sortent quelque chose de concret de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni. Nous voulons savoir dans quelles conditions nous allons devoir travailler.
Selon Pim Leiner, l'une des solutions pour éviter un éventuel chaos post-Brexit dans les ports néerlandais, c'est l'automatisation du processus d'enregistrement des camions de marchandises, comme cela existe déjà dans le port de porte-conteneurs de Rotterdam. Marty van Pelt est l'un des responsables de Portbase, une société chargée de l'automatisation des ports de la région.
Actuellement, nous connectons entre eux tous les maillons de la chaîne de transport, de sorte que toutes les informations soient envoyées numériquement à l'avance. Car avec le retour des douanes aux frontières, la question est de savoir si on est obligé de donner le document physiquement ou si on peut tout simplement envoyer à la douane toutes les informations afin qu'elle sache en avance qu'un chargement en cours d'export arrive Et qui est le sous-traitant?
Selon Marty van Pelt, il y a urgence.
Si l'on ne fait rien, le risque, c'est que des camions arrivent et s'enregistrent sur place, provoquant ainsi un immense embouteillage. Alors qu'en envoyant toutes les infos en avance, ça ne devrait prendre que quelques secondes de plus qu'avant le Brexit. En fait, l'automatisation, c'est un élément clé. Il ne faut pas oublier qu'on parle maintenant de milliers de documents qu'il faudra préparer et qui devront être contrôlés, sans parler de tous les processus d'enregistrement liés au transport vers un pays tiers. C'est un peu comme lorsque vous réservez un ticket d'avion, vous pouvez le récupérer au guichet ou alors l'imprimer chez vous pour monter à bord plus vite.
Avec d'autres instances, Portbase a également lancé getreadyforbrexit.eu, un site de prévention à l'attention notamment des entreprises néerlandaises. Il faut dire que la situation est prise très au sérieux. Ici, certains estiment que même en cas de Brexit doux, le temps d'attente par camion pourrait atteindre les 20 minutes.
Et malgré les liaisons directes entre l'Irlande et Rotterdam, mais aussi la France et l'Irlande, on s'inquiète beaucoup à Dublin, car actuellement 85% des échanges de l'île avec le continent européen passent par le Royaume-Uni, c'est plus rapide. Autant dire que la perspective d'un no deal serait catastrophique. Explication à Dublin de Julien Lagache.
Au sein du marché unique et de l'union douanière, le Royaume-Uni peut recevoir et laisser passer sur son territoire tous les biens en provenance ou à destination de l'Irlande sans avoir à collecter de taxes ou à procéder à des contrôles puisque les deux pays font partie du même ensemble. Le problème est que Londres souhaite aussi quitter ces structures qui impliquent le respect de certaines normes. Or, si le Royaume-Uni redevient un pays tiers, une frontière économique semble inévitable avec le reste de l'UE et c'est cela qui pose problème pour l'import-export irlandais qui transite essentiellement par la mer, mais surtout pour le trafic entre l'Irlande et le continent dont 85% passe aujourd'hui par la Grande-Bretagne qui sert de raccourci terrestre. Cela permet notamment au chargement de bétail ou de produits agroalimentaires périssables d'arriver en 15 heures à destination, soit deux fois plus vite que via le corridor envisagé par Bruxelles qui relierait Dublin à Anvers ou à Rotterdam. Plus proche voisine de l'Irlande après la Grande-Bretagne, la France a elle obtenu l'ajout sur cette route des ports de Bretagne et de Normandie. Ceci ouvre la possibilité d'obtenir des fonds européens pour financer des infrastructures routières ou portuaires autour de Cherbourg, Roscoff et Brest côté français, ainsi qu'à Cork et Rosslare côté irlandais. Mais ce nouveau débouché ne pourra absorber tout le flux qui transitait par le Royaume-Uni, en outre client majeur de l'Irlande. Dublin espère donc un Brexit doux, sans complications administratives, faute de quoi l'import-export avec son voisin britannique sera sans doute plus long, avec des répercussions sur les tarifs et la consommation. À moins de mettre en place des mécanismes technologiques ou commerciaux qui n'existent toujours pas, le retour des barrières douanières risque donc d'être brutal. Et en prévision d'un non-accord de Brexit, Dublin prévoit déjà l'achat de terrains autour des ports pour bâtir des infrastructures de contrôle si nécessaire.
Des bouchons à n'en plus finir, des liaisons saturées, le trafic transmanche vit avec la crainte d'une tempête sans précédent. À Dieppe, petit port normand, on veut croire en sa bonne étoile, surtout que la liaison Dieppe-New Haven fait partie de ces lignes historiques qui sont nées bien avant 1973 et l'entrée du Royaume-Uni dans ce qu'on appelait alors la Communauté économique européenne. Reportage signé Julia Trangeval.
Filant ses 21 nœuds, ce navire élégant n'est pas un paquebot de croisière, mais un des deux nouveaux cars ferry français mis en service au printemps 1965 sur la relation New Haven-Dieppe.
Le ferry Dieppe-New Haven symbolise les liens très anciens, très étroits entre Anglais et Normands.
S'il y a un golfe à Dieppe, c'est grâce aux Anglais, hein. Churchill, quand il était jeune, Churchill venait souvent. Il y a eu Ho Chi Minh a travaillé sur la ligne, il était maître d'hôtel.
C'était l'époque où la région de Dieppe voyait arriver hommes politiques et célébrités. Les anecdotes sur l'âge d'or du ferry sont légion. Pierre Launay est un ancien marin militaire passionné par l'histoire du transmanche.
Parce que c'était avec Calais, c'était les deux liens qu'il y avait entre la France et l'Angleterre. Au début, dans les années 1880-1900, ici vous aviez 5 paquebots et 3 cargos qui faisait en permanence la traversée entre Dieppe et Miléret. Quand il y a eu les expositions de Paris, etc., il y a eu des trafics importants de passagers. Parce que les Anglais venaient à Paris voir la foire exposition de Paris.
Si la ligne connaît son apogée au début du XXe siècle, l'histoire des traversées, elle, est bien plus ancienne.
Les premières traversées commerciales qui ont été effectuées par les Anglais, c'était en 1793. C'est Burton et puis Chapman qui, à partir de voiliers, ont eu une autorisation commerciale de trafiquer entre Dieppe et Brighton. Il y avait un échange quand même important entre les Anglais qui venaient sur le territoire. À l'époque, à Brighton, c'était l'embarquement, il n'y avait pas de quai comme à Dieppe. Les marins transportaient les dames dans les embarcations, les emmenaient sur les voiliers. La traversée durait entre 15 et 20 heures. Et puis, avec l'arrivée du chemin de fer, ça a été le grand déclic. Avec l'arrivée du chemin de fer, d'abord, les Anglais ont eu en 1848 le chemin de fer, et puis ensuite Rouen et Dieppe se sont connectés. Et alors, cette particularité, c'est que si vous prenez une carte d'Europe, tirez un trait entre Paris et Londres, quasiment ça passe par Dieppe, c'est la ligne la plus courte.
Aujourd'hui, le trafic passager n'est qu'une petite partie du trafic transmanche. Dieppe-New Haven, c'est 2 liaisons par jour l'hiver, 3 l'été, près de 130 000 voitures et 375 000 passagers en 2017. En revanche, avec le marché unique, le volume de marchandises entre le continent et le Royaume-Uni a explosé. Et si la plupart des camions passent le tunnel sous la Manche à Calais, 45 000 poids lourds ont choisi d'emprunter plutôt la liaison Douvres-New Haven en 2017. L'hypothèse d'une sortie des Britanniques de l'Union européenne sans accord, un Brexit dur, aurait des conséquences immédiates. C'est ce qu'explique le vice-président du syndicat mixte du port de Dieppe, Jean-Christophe Lemaire.
Je pense que le Brexit dur va redistribuer les cartes du trafic dans le Détroit, en fait, et donc des différents ports. Donc évidemment qu'une baisse du trafic sur la ligne transmanche Dieppe-New Haven serait extrêmement compliquée, puisque ce trafic permet aujourd'hui d'abonder à quasiment 2/3 les recettes portuaires du port de Dieppe. C'est-à-dire de tirer finalement toutes les autres activités du port de Dieppe, que ce soit la pêche, la plaisance ou le commerce. Donc c'est une étape à ne pas rater, et pour nous c'est essentiel effectivement d'être concurrentiel, d'être attractif, même dans l'hypothèse d'un Brexit dur.
Ce Brexit dur, c'est une menace pour Dieppe. Cela peut aussi être une opportunité, que le flux de camions augmente pour éviter le passage par Calais qui risque l'engorgement. Avec des contrôles aux frontières qui risquent de se renforcer, des temps d'attente accrus, la solution viendra peut-être du trafic passager. Actuellement, la ligne est exploitée par DFDS Seaways, par délégation de services publics. Dans cette période d'incertitude, l'opérateur n'a pas souhaité s'exprimer. Pierre Marlin, qui préside Tug Horizon, l'association d'usagers du ferry transmanche, espère que la ligne, chroniquement déficitaire, pourra continuer à fonctionner même en cas de Brexit dur.
Si c'est un Brexit dur aussi, ce qu'on espère beaucoup, c'est au niveau des passagers, c'est qu'il y ait un retour du duty free, qui est financé pas mal la ligne avant. Alors vous savez que les lignes de ferry ont du mal à y arriver, sont déficitaires, surtout celle de Dieppe. À la subsides du département, qui est assez important. Et si on peut avoir le duty free, je pense que là, ça va remettre peut-être les choses un peu mieux, un peu moins cher.
La survie de la ligne en dépend. La concession sera revue fin 2022.
Et de port, il est aussi question au sud de l'Europe, mais on parle là d'un autre casse-tête crucial pour le continent, les migrants et la question de la réforme du droit d'asile à l'échelle européenne. Deux navires d'une ONG allemande qui était bloquée en Méditerranée avec 49 migrants ont finalement été autorisés en fin de matinée à débarquer à Malte. Bonjour Evmino.
Bonjour Frédéric.
On parle donc de 49 migrants, d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont vécu plus de 15 jours dans des conditions sanitaires déplorable en attendant une solution.
Oui, leur sort avait ému, plus qu'ému, l'opinion publique. Il était le révélateur de l'impuissance européenne des réfugiés, malades de la mer, déshydratés, tellement désespérés que certains avaient entamé une grève de la faim pour dénoncer leur situation. L'un d'entre eux avait même sauté par-dessus bord pour rejoindre Malte à la nage. Les ONG dénonçaient un record de la honte, car personne en Europe n'acceptait de les accueillir, et surtout pas Malte ni l'Italie, qui préféraient fermer leurs portes pour pour ne pas créer de précédent.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu débloquer la situation à Malte, Eve ?
Oui, vraisemblablement, cette autorisation délivrée par les autorités maltaises fait suite à un accord passé avec d'autres pays membres de l'Union européenne pour accueillir ces migrants qui seront répartis entre 8 États, la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas se sont dit prêts à accueillir une partie de ces migrants à condition que d'autres pays fassent pareil, conformément aux conclusions du sommet européen de juin dernier qui préconisait un effort partagé.
Et si l'on en croit les déclarations du Premier ministre maltais, l'Italie devrait aussi accueillir une partie de ces migrants contre toute attente, puisque le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a surtout affirmé ces derniers jours le contraire.
Matteo Salvini l'affirme, plus aucun réfugié ne mettra un pied en Italie, les ports resteront fermés, mais tout le monde ne partage pas la radicalité de ce message politique envoyé aussi bien aux citoyens italiens qu'au reste des dirigeants du continent. Le ministre du Travail 5 étoiles, Luigi Di Maio, partenaire de la coalition, a par exemple proposé d'accueillir 10 femmes et enfants, tandis que le président du conseil, Giuseppe Conte, s'est dit prêt, lui, à accueillir jusqu'à 15 personnes, maris compris, ils apprécieront. Certaines villes, comme Naples, ont proposé de leur côté d'ouvrir leur port, cette fois-ci à ces deux navires, mais savent qu'ils risquent gros en prenant le contre-pied du gouvernement.
La polémique à Rome est même remontée jusqu'au Vatican, puisque le pape lui-même s'est exprimé sur le sujet.
C'était l'heure de ses vœux. Pour la nouvelle année, l'appel du souverain pontife s'adressait également plutôt aux dirigeants européens dans leur ensemble qu'à l'exécutif italien en particulier. Il leur a demandé de trouver une réponse concertée pour faire preuve de solidarité concrète à l'égard des réfugiés. Un appel qui n'a pas semblé émouvoir les responsables politiques italiens.
Plusieurs voix donc à Bruxelles s'élèvent pour réformer les règles de Dublin et éviter à l'avenir ce genre de blocage inextricable.
Oui, car pour l'instant, les demandes d'asile des réfugiés doivent être déposées dans le pays d'entrée sur le continent en Europe, ce qui implique forcément que les personnes arrivant par la Méditerranée, qui empruntent la même route et arrivent donc au même endroit, font toujours appel aux mêmes États pour les accueillir. L'idée d'une réforme complète du droit d'asile en Europe semble pour l'instant dans l'impasse, tant les blocages sont importants dans les pays de l'Est de l'Europe, mais aussi en Autriche par exemple et en Italie. En attendant, quelques dizaines de migrants qui ont échappé de peu à la mort attendent que les États européens veuillent bien s'intéresser à leur sort.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et on terminera par le combat pas si anecdotique des habitants d'une île des Canaries qui luttent contre le développement anarchique et touristique de leur île sans concertation. Les explications de François Musso.
À l'extrémité nord-ouest de l'île de Gran Canaria, il y a une jolie commune d'environ 5000 habitants, jusqu'ici préservée du tourisme de masse. Un tourisme de masse qui a défiguré une bonne partie de cette île en particulier et de l'archipel en général. Cette commune a pour nom Agaete, fondée à la fin du XVe siècle, qui jouxte le parc naturel de Tamadaba en surplomb d'environ 1000 mètres. Or, c'est là que le gouvernement régional a de grands projets. Concrètement, il veut reconstruire El Puerto de las Nieves, le port des neiges littéralement. Pour l'heure, c'est un modeste port pour pêcheurs et bateaux de plaisance. Or, ce que veulent les autorités de l'archipel, c'est un méga chantier qui permette de construire un deuxième quai 500 mètres plus loin vers le large, afin, disent-elles, de recevoir de plus gros bateaux. En l'occurrence, des ferries de deux compagnies différentes, Fredolsen et Naviera Armas. Le gouvernement soutient que cela facilitera le transport entre l'île de Gran Canaria et l'autre grande île, Tenerife. Les manifestants disent tout au contraire que cela n'est pas nécessaire. Il existe en effet depuis peu une navette rapide permettant de rallier les deux îles en seulement une heure et demie et expliquant que le nombre de voyageurs dans le petit port d'Agaete a considérablement baissé ces derniers mois. L'exécutif, lui, ne veut pas en démordre. Il a approuvé ce projet de 45 millions d'euros et en face, les opposants très relayés dans les médias disent être disposés à se battre jusqu'au bout pour, je cite, « préserver la tranquillité et le charme d'Agaete ».
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI.